Soyez bienvenus, j'ai du plaisir à saluer Jean-Daniel, Pascaline et toute sa rangée. On est content de vous voir tous ici, ça nous fait vraiment plaisir. Soyez vraiment bénis dans ce temps ici au Pays de Gex. Le mois dernier, Philippe et Pierre vous ont apporté la première partie du message sur le Saint-Esprit. Et plus précisément, nous ont remémoré l'importance de la présence du Saint-Esprit dans nos vies, dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, c'est-à-dire dans l'importance et l'importance primordiale dans notre vie de chrétien. Et ce matin, nous aimerions, avec John, apporter la deuxième partie de cette étude, qui est la place du Saint-Esprit dans l'Église. Nous devons accepter aussi, reconnaître son importance primordiale au sein de l'Église. De l'Église avec un grand E, mais aussi de l'Église locale, notre Église. Le petit troupeau qui se réunit, ça et là, ici, ou deux ou trois, dès le moment où deux ou trois sont réunis en son nom. Si individuellement, enfants de Dieu, nous vivons par l'Esprit, combien plus nos rassemblements, nos actes, notre vision, notre vie communautaire sont sous le sceau du Saint-Esprit. Pratiquement, nous pouvons affirmer clairement que sans l'Esprit Saint, il ne peut pas y avoir d'Église. Il en est à la fois l'auteur, le principe de vie et le coordinateur. Alors, je vous propose de revenir sur quelques pistes qui nous rappelleront ces points importants. Le premier point, c'est que l'Esprit fait naître et croître l'Église. Matthieu 28, 19, « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Le chrétien, initié et empli par l'Esprit, a pour ministère principal, individuel, le témoignage, et va donc participer à l'agrandissement du groupe de croyants. Et même si le croyant lui-même y met du sien, cet agrandissement, ce groupe de croyants, ce développement, n'est possible que grâce à l'Esprit Saint, grâce à l'action de l'Esprit Saint, force spéciale reçue lors du départ du Christ. C'est la seule possibilité. Acte 1, verset 8. Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'au extrémité de la terre. Par rapport à la Judée et la Samarie, on est presque à l'extrémité de la terre. En tout cas, avec la connaissance de l'époque. On n'en est pas encore en Amérique à l'époque. Ce n'était pas encore découvert, comme on dit. C'est donc l'Esprit qui va créer, susciter le groupe qui va devenir l'Église, qu'on va appeler l'Église. Ça peut être simplement l'Église de maison, les quelques-uns qui vont se réunir, le petit groupe de pionniers qui sont à un endroit. Peu importe. Mais le prolongement de l'acte individuel du salut du Christ est l'œuvre de l'Esprit Saint dans le groupe qui est à l'origine de l'Église et des Églises, à quelque endroit qu'elle soit. À commencer donc dans notre texte par le temps des apôtres, par la région autour de Jérusalem, la Samarie et la Judée. L'affirmation qu'on trouve dans Acte 9, verset 31, est tout sauf uniquement historique ou anodine. Je vous lis ce verset. « L'Église était en paix dans la Judée, dans la Galilée, dans la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. » Si l'Église fonctionne, c'est grâce à l'Esprit. Si l'Église vit en paix, c'est grâce à l'Esprit Saint. Si elle marche dans la crainte du Seigneur, c'est grâce à l'Esprit Saint. Si elle s'accroît, c'est aussi grâce à l'Esprit Saint. L'Église a donc pour mission première, notre Église a donc pour mission première de rechercher le Saint-Esprit, de rechercher l'Esprit, avec toutes les remises en question que cela peut légitimement poser ou créer et j'en parlerai brièvement plus tard. Donc c'est la mission première de l'Église, de rechercher cet esprit. Un deuxième point important, le Saint-Esprit vivifie l'Église. Vivifier. On sait ce que c'est qu'un air vivifiant. Quand vous sortez le matin, on sait au mois de février cette année, quand on est sorti le matin et qu'il regardait le thermomètre et qu'il faisait encore moins 19, l'air était vivifiant. C'est comme ça que le Saint-Esprit veut vivifier l'Église aussi. Vous savez, quand l'air est vivifiant, vous avez déjà essayé de faire du vélo quand il fait moins 10? Ça respire, vous avez l'impression que ça descend jusqu'au bout des pieds. On a l'impression que le nez, le trou du nez, là, ça descend jusqu'au fond des pieds tellement ça nous glace à l'intérieur. Ça nous transmet un air frais. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire avec l'Église, la vivifier en profondeur. Il la rend vivante, vivante de la vie du Christ, de la vie de l'Esprit. Galates 5, 25, « Si nous vivons par l'Esprit, alors ça c'est personnel, mais appliquons-le à l'Église, réfléchissons-y pour l'Église, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi sous l'impulsion de l'Esprit. » C'est-à-dire, laissons cet air vivifiant être le moteur de notre marche. Un troisième point important, le Saint-Esprit équipe l'Église pour le service. Équipe l'Église. C'est-à-dire, lui donne ce qu'il faut. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, John va l'aborder dans un moment, mais regardons simplement trois textes. Acte 13, verset 2. « Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint dit, « Réservez-moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les destine. » C'est simple. C'est l'Esprit Saint qui va donner la vision et ordonner « Mettez-les de côté. » Ces deux-là, je les veux de côté pour le travail de l'Église. Il prépare pour le service l'Esprit Saint de façon spécifique, précise, pour un service précis pour l'Église et au bénéfice de l'Église. On imagine que quand on dit au bénéfice de l'Église, c'est au bénéfice aussi de chacun des membres de l'Église, bien sûr. Ainsi en est-il de tous les responsables des Églises, pasteurs, anciens, autres responsables, tous ceux qui ont un travail dans l'Église, dans la continuation de l'œuvre personnelle du Christ qui s'est retiré et où l'Esprit-Saint a pris sa place. Deuxième texte, acte 20, verset 28. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paraître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » L'Église dans son chemin, là c'est précisément pour les anciens, mais est guidée, dirigée, portée par l'Esprit. Et je pense que l'Esprit va donner aux personnes qu'il a demandé de mettre de côté pour le travail, l'intelligence et la compréhension de ce qu'il veut faire au travers de cette Église. Et enfin, dernier texte, en effet, 2 Pierre 1,21, « Ce n'est pas la volonté humaine qui a jamais produit une prophétie, mais c'est porté par l'Esprit Saint que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Je relis ce texte parce qu'il est important. Ce n'est pas la volonté humaine qui a jamais produit une prophétie. C'est intéressant, hein ? Mais c'est porté par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. L'Esprit Saint va particulièrement équiper l'Église locale, précisément avec les dons qui lui seront nécessaires pour entrer dans la vision et l'engagement qu'il va susciter l'Esprit Saint en elle. C'est l'Esprit qui prépare, qui met en place et qui veut ce travail et ce plan pour l'Église. Autre action du Saint-Esprit au bénéfice de l'Église, il la purifie. Il purifie l'Église, il la rend pure. L'Église est le peuple de Dieu. Prenons ici l'exemple du peuple de Dieu. L'Église est le peuple de Dieu. La communauté locale en est une des composantes et n'échappe pas du tout à cette règle. Nous sommes le peuple de Dieu réuni dans ce lieu, simplement. Elle est au milieu du monde, l'Église, du monde corrompu et impur aux yeux de Dieu. Et c'est l'Esprit Saint, à la suite de l'œuvre du Christ, qui va la rendre pure, qui va la garder pure. Hébreux 9, 14, Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans tache, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant ? Il y a d'un côté le monde impur et qui est mort, il y a de l'autre côté l'Église qui est pure et qui est vivante, mais purifiée par l'Esprit de Dieu. L'Église est purifiée au milieu d'un monde impur et mise à part pour l'œuvre de Dieu dans ce monde. Éphésiens 5, 25, vous chercherez le petit passage qui est avant, peut-être ça vous mettra la puce à l'oreille, mais vous chercherez, je ne vous le lis pas, Éphésiens 5, 24, je commence au milieu d'une phrase, « Comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, il a voulu se la présenter à lui-même, splendide, sans tache ni ride, ni aucun défaut. Il a voulu son Église sainte et irréprochable. Il l'a voulu sainte et irréprochable. Comment pourrait-elle être sainte sans la sainteté de l'Esprit de Dieu, sans l'Esprit Saint ? Une Église purifiée, active et qui va se démarquer du monde. Car c'est par l'Esprit Saint seulement qu'elle aura accès à ce statut. Un point encore important, le Saint-Esprit guide l'Église. Est-ce qu'on est convaincu que le Saint-Esprit guide l'Église ? Reprenez les chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse. Sept fois, il est répété la même phrase. Si dans la Bible on nous répète sept fois la même phrase, ça veut sûrement dire quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut tourner sept fois sa langue dans la bouche avant de la prononcer, mais ça veut dire qu'il faut penser qu'elle est importante, très importante. Vous savez, vous connaissez cette phrase. Que celui qui a des oreilles. Qui est-ce qui a des oreilles ici ? Que celui qui a des oreilles. Ça s'adresse quand même au plus grand nombre. Hein. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Lorsque Jésus donne à Jean cette révélation, cette phrase, ce que l'Esprit dit aux églises. Il ne veut pas dire simplement la parole qui est adressée aux églises, simplement juste ça. Non, bien plus, l'Esprit présent dans le Christ à ce moment-là les met en route, leur montre un chemin et les guide. Et il fait bon relire pour chaque personne, tant pour les responsables d'église que pour chaque membre du troupeau, les sept mises en garde dans les sept églises de l'Apocalypse. Parce qu'on va de toute façon s'y retrouver intimement, personnellement, ou en tant qu'Église, quelle que soit notre Église, à un moment ou à un autre. Ce sont autant de photos de nos situations où nous pouvons nous trouver, où peut se trouver notre Église. Alors, il faut s'en remettre à l'Esprit Saint, ici, et faire avec lui le pas de foi collectif vers le plan de Dieu pour son peuple. L'Esprit nous y conduira, si nous l'écoutons, en tant qu'Église locale. Luc 12, 12, le Saint-Esprit vous enseignera alors même ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire. Alors même. Il y a simplement ce pas de foi à faire et le Saint-Esprit fera le reste. C'est la suite de ce qu'on a vu dimanche passé. Vous vous souvenez ces versets. Un point important encore est que bien souvent on a du mal à percevoir, à comprendre, parce qu'il est un petit peu en dehors de notre raisonnement. C'est que l'Esprit Saint unit l'Église. Éphésiens 4, 3, appliquez-vous à garder l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. En recherchant à comprendre la profondeur d'une telle phrase, nous découvrirons que c'est uniquement l'Esprit de Dieu qui est à la fois le lien et le ciment de l'Église. Tous les efforts humains, si louables soient-ils, aideront, c'est certain, à cette unité. Vous savez, c'est ce qu'on va trouver dans la bonne volonté, les hommes de bonne volonté qu'on trouve dans cette annonce faite le jour de la naissance du Christ. Paix sur la terre parmi les hommes de bonne volonté. Oui, cette bonne volonté, l'Esprit en a besoin. Mais cela restera vain et peine perdue si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est le lien réel qui lie les hommes et les femmes de bonne volonté dans le groupe qu'est l'Église. C'est comme l'amour d'un père qui va être assez fort malgré tout pour lier toute une famille. Nous sommes la famille de Dieu. Et l'Esprit Saint est ce qui sort l'expression de l'amour de Dieu pour nous, au milieu de l'Église. Ainsi, nous n'avons pas d'autre choix, pas d'autre choix, mais ce n'est pas un choix forcé, ce n'est pas un choix qui nous est mis dessus comme quelque chose de lourd à porter, mais nous n'avons pas d'autre choix, dans notre bonne volonté, de nous en remettre à l'Esprit-Saint pour cette unité au sein de l'Église, au sein de notre Église aussi. Philippiens 2,13, car c'est Dieu qui fait en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous guider aussi selon son dessein. Notre part de chrétien au milieu de l'Église et notre rôle d'Église au milieu du monde sera alors de vivre l'amour et la paix et de vivre ensemble, clairement et fortement, un des symboles palpables que le Christ nous donne de vivre par son esprit. Et je parle de cette table, ce repas, la scène, repas de l'unité de l'Église, s'il en est, où les éléments symboliques partagés représentent la passion du Christ qui s'est livré, mais où l'Esprit de Dieu est profondément présent et est l'unificateur de la communauté, tellement il gomme toutes les différences et apporte la preuve à chacun de sa valeur unique, individuelle, importante au sein de l'Église. L'Esprit Saint unit ainsi l'Église par la valeur retrouvée de chacun, rachetée aux yeux de Dieu et accueillie à la table de la communion, où règne l'Esprit Saint, suite au sacrifice du Christ. Éphésiens 4,4, il y a un seul corps et un seul esprit, de même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance. Nous avons la même espérance qui est manifestée dans l'Église par l'Esprit Saint suite au sacrifice du Christ. Enfin, et je voulais y revenir, l'Esprit révèle plus ou moins la présence de Dieu dans l'Église. L'état de l'Église est intimement lié à la place laissée à l'Esprit pour agir dans l'Église. Et là, ça nous plaît peut-être moins. Mais de même que l'Esprit dans le cœur de l'homme crée la vie, de même, le pouls de l'Église est lié à l'action de l'Esprit au-dedans d'elle. Autant une Église qui vit par l'Esprit et s'y soumet va être vivante, vivifiée, autant, et il faut se poser la question, s'il n'y a pas bon fonctionnement, paix, marche dans la crainte et même accroissement, il y a des questions à se poser franchement. Est-ce que l'Esprit est vraiment présent au milieu de l'Église? Est-ce que cet Esprit Saint est vraiment le moteur de l'Église? Quelle place est-ce qu'on lui laisse en tant qu'Église? A-t-on réellement laissé en tant qu'Église, c'est une autre façon de poser la question, sa place au Saint-Esprit, au milieu, au centre de l'Église? Une autre façon de voir la question, est-ce qu'on recherche vraiment en tant qu'Église, que groupe, le Saint-Esprit comme étant une nécessité indispensable, plus qu'importante, indispensable, vitale, vivifiante? Une autre façon de se la poser encore, est-ce qu'on a en tant qu'Église la liberté d'avoir cette réflexion devant Dieu? Et la remise en question, vous vous rendez bien compte qu'elle revient systématiquement vers chacun. Elle vient de l'Église, mais elle vient vers chacun aussi, un petit peu comme un boomerang. Est-ce que le Saint-Esprit est vraiment à sa place dans ma vie pour que, pour ma part, il contribue et je contribue aussi à l'édification de l'Église et à sa bonne marche selon ce que l'Esprit veut? Ce sont des réflexions qui sont souhaitables, qui sont nécessaires, mais attention, et là je voulais bien vous mettre en garde et nous mettre en garde, il ne faut pas nous laisser abattre par de telles réflexions. Ces réflexions sont vivifiantes, ces réflexions sont des réflexions qui portent vers l'avenir, vers cette espérance qui nous est promise. Le Saint-Esprit au sein de l'Église, c'est d'abord une force de vie, une force de liberté, une force pour avancer, une force pour nous permettre de nous libérer de tous nos poids. Et je terminerai, avant de laisser la place à John, par ce texte que vous connaissez très bien, Galates 5, 22, Mais voici, et c'est bon pour nous individuellement, mais combien c'est bon et riche pour nous, Église, mais voici le fruit de l'Esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance et foi. Que Dieu nous garde et nous aide à retrouver, à vivre en Église sous le regard de son Esprit.
Il y a deux sujets qui nous attirent beaucoup lorsque nous parlons du Saint-Esprit, qui sont généralement ces deux sujets qu'on pourrait rédiger comme ceci. Que signifie être baptisé, être rempli du Saint-Esprit ? Et le deuxième sujet, c'est celui qui est en rapport avec les dons spirituels. Alors, je crois que pour vous, simplement pour mettre ça en perspective un tout petit peu, ces deux sujets n'ont pas beaucoup été traités au cours de l'histoire de l'Église. Et si on regarde un certain nombre de livres de théologie des siècles précédents, ce sont des sujets qui n'ont pas beaucoup préoccupé les chrétiens. Ou du moins, on n'en a pas beaucoup parlé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au cours du XXe siècle, ces deux sujets, parmi les chrétiens, et en particulier parmi les chrétiens évangéliques, ont pris un essor, principalement sous l'influence du mouvement pentecôtiste qui s'est développé au début du XXe siècle, et puis sous l'essor du mouvement charismatique qui, lui, s'est développé dans les années 60 et 70 et s'est propagé donc ensuite dans les années 80 et 90. Mais ces deux sujets continuent d'être actualité aujourd'hui parce que dans le rayonnement et la progression de l'Église sur la surface de la Terre aujourd'hui, ce sont principalement les Églises de type pentecôtiste et charismatique qui sont en train de croître et de se développer et de porter la parole jusqu'aux extrémités de la Terre. Et ce sont des Églises qui, elles, font une part extrêmement importante à l'action de l'Esprit dans la vie du chrétien. Pourtant, simplement de dire qu'au XXe siècle, on s'est intéressé à ce sujet et qu'auparavant, on s'y intéressait moins, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des textes, ou plutôt que ce ne sont pas des sujets qui ont, ou qui n'auraient pas, pardon, un appui biblique. Et j'aimerais ici vous montrer deux textes qui vont peut-être un petit peu dans le sens contraire, l'un de l'autre, mais qui illustrent un petit peu les appuis bibliques qu'on peut trouver pour chacune des positions. Le premier, à la gauche, c'est Jésus qui, à un moment, avec ses disciples rassemblés, souffle sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Alors on peut présumer que les disciples étaient, entre guillemets, convertis, qu'ils s'étaient repentis de leur faute, qu'ils avaient mis leur foi en Jésus-Christ. Or, pourtant, voici, à la fin de son ministère, Jésus, à un moment donné, souffle sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». L'autre texte à droite, sous la plume de l'apôtre Paul, semble, lui, décrire une sorte de principe général qui dit « Nous avons tous été baptisés par un seul et même Esprit ». Où il semble parler à tous les chrétiens et leur dire, indépendamment de ce que vous avez pu vivre en tant qu'expérience comme celle que Jésus a fait vivre à ses disciples, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit. Derrière ce texte de Jean 20, ou des textes comparables, il y a un certain nombre de textes qu'on trouvera dans le livre des Actes en particulier, où il semblerait que la réception du Saint-Esprit puisse être, ou apparemment, détachée de l'expérience de la conversion, ou du moins de la repentance. Vous avez Jésus lui-même qui dira à ses disciples, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que le Consolateur vous soit donné. Et il y a eu tout un temps où les disciples devaient rester à Jérusalem, et ce n'est qu'au moment, le jour de la Pentecôte, que l'Esprit-Saint est descendu sur eux, non seulement les 12, mais plusieurs centaines. Un peu plus loin, au chapitre 8, vous avez la prédication de Philippe aux Samaritains. Et là, il semblerait qu'ils se soient convertis, qu'ils aient été baptisés. Mais ce n'est que quelques jours plus tard, lorsque Pierre et Jean leur rendent visite, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Deux chapitres plus loin, au chapitre 10, Vous avez cette histoire où Dieu demande à Pierre d'aller voir un certain Cornélius. Et là aussi, il se rend compte, le Cornélius, qui lui était un craignant Dieu. Donc quelqu'un qui avait quelque part mis sa foi en Dieu. Et ce n'est qu'au moment de la visite de Pierre qu'il reçoit le Saint-Esprit, lui et toute sa maison. Et peut-être un troisième ou un quatrième texte au chapitre 19 du livre des Actes, où Paul est dans son voyage missionnaire et arrive à Éphèse, et là aussi rencontre un certain nombre de croyants qui auraient été baptisés du baptême de Jean, donc principalement un baptême de repentance, mais ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils reçoivent l'Esprit lorsque l'apôtre prie pour eux. Donc on peut se demander, bien, la réception du Saint-Esprit en un temps ou en deux temps? Maintenant, une des choses que j'aimerais affirmer, mais ça je pourrais l'étayer si jamais vous le voulez, parce qu'il faut que j'avance, c'est que tous les textes que je vous ai cités pour l'instant où il y a eu la réception du Saint-Esprit en deux temps sont des exemples qui nous sont donnés, des cas. Tandis que ce dont nous parle l'apôtre Paul semble être un principe. Mais, pour bien comprendre ce qui s'est passé au moment de la Pentecôte, il ne faut absolument pas simplement s'arrêter à croire que c'est une question, est-ce que nous recevons le Saint-Esprit en un temps ou en deux temps? Ça, c'est une question, dans un sens, qu'il faut se poser après une première question, ou du moins après avoir pris connaissance d'une chose extrêmement importante. C'est qu'au moment de la Pentecôte, il y a un basculement qui se fait dans l'histoire du salut. Il y a un avant et il y a un après. Il y a quelque chose de radicalement différent dans la façon dont Dieu va agir avec les hommes. Et vous avez le moment de la croix et vous avez le moment de la Pentecôte. Et ces deux moments ensemble sont le moment charnière de l'histoire du salut. Depuis la croix et la Pentecôte, ce n'est plus la même chose. Et auparavant, sous l'Ancienne Alliance, on avait naturellement l'action du Saint-Esprit. Mais si vous relisez certains textes où l'Esprit agit, on a l'impression que cette action du Saint-Esprit est plutôt discrète. Elle est sporadique. Le Saint-Esprit agit au travers de quelques personnes. Uniquement, il nous est parlé de David, il nous est parlé d'autres personnes aussi. Mais on n'a pas l'impression que tout le peuple était rempli du Saint-Esprit. Et même Moïse, à un moment, il dira, mais si seulement tout le peuple pouvait être rempli du Saint-Esprit. Mais ce n'était pas le cas. Et puis sous l'ancienne alliance aussi, l'Esprit pouvait se retirer de la vie de quelqu'un. Et là, si vous reprenez l'histoire de Saül, Saül avait l'Esprit du Seigneur, mais il y a eu un moment où l'Esprit du Seigneur s'est retiré de lui. Et puis, comme je viens de citer Moïse, mais je pourrais citer d'autres prophètes, le prophète Jérémie en particulier, ou Joël, où en fait l'attente du Saint-Esprit, ou plutôt où le Saint-Esprit est un sujet d'attente et de promesse et non pas quelque chose d'une réalité quotidienne, comme nous pouvons dire aujourd'hui, le Saint-Esprit est une réalité quotidienne de la vie de l'Église. Il n'y a pas à attendre quelque chose de plus parce que le Saint-Esprit nous a été donné. Or, dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, il y a toujours une attente, une aspiration. Tandis que, qu'est-ce qui se passe sous la Nouvelle Alliance ? Et là, j'utiliserai tout simplement ce texte que l'apôtre Pierre cite du prophète Joël. C'est le moment où il y a une effusion de l'Esprit, c'est-à-dire où l'Esprit est donné, parce qu'il n'était pas donné auparavant. Il couvre tout le monde et il est cette présence dynamique, continue, de la nouvelle vie en Jésus-Christ. Et comme Jean-Paul nous l'a rappelé jusqu'à présent, il est le principe dynamique, il est la force de l'Église. Et c'est aussi ce qui est promis à chacun individuellement, dans sa propre vie. Et donc, il faut bien prendre conscience que ce n'est pas simplement une façon différente de parler des choses, mais c'est que Dieu a agi de façon différente au moment de la croix et de la Pentecôte. Et que tous ceux qui auparavant avaient été sous l'action de l'Esprit, comme les David, les prophètes, etc. et tout, l'avaient été dans un sens par anticipation sur cette effusion de l'Esprit qu'il y aurait après. Ainsi donc, l'Ancien Testament, sur quelques personnes seulement, le Saint-Esprit peut se retirer et il est d'abord et avant tout une promesse. Tandis que dans le Nouveau Testament et sur la Nouvelle Alliance, il est donné à tous, il ne peut pas être retiré et c'est l'effusion promise. Et ce mot effusion, c'est cette espèce d'abondance, de jaillissement qui marque l'ère du Saint-Esprit. Ainsi donc, si on essaye de voir un petit peu sur une ligne un petit peu historique entre la création et le retour du Seigneur, nous avons la croix et la Pentecôte qui marquent un petit peu cette différence dont j'ai parlé. Et en fait, qu'est-ce qui arrive? C'est que le chrétien est dans un sens aspiré ou invité à rentrer dans une vie de l'Esprit qui est beaucoup plus abondante que ce qu'elle pouvait l'être ici dans l'Ancien Testament. Et cette flèche qui n'arrête pas de monter, c'est aussi toutes les personnes qui se convertissent, qui viennent au Seigneur par la repentance et tout ça, elles sont invitées et aspirées dans cette vie de l'Esprit, qui est cette vie d'abondance. Et de même, nous, qui sommes encore marqués par un petit peu ces temps-ci, et qui attendons dans un sens les temps à venir, et le temps de la réalisation du salut, nous sommes aussi invités à progresser dans cette vie de l'Esprit. Mais comme Jean-Paul nous le disait tout à l'heure, la vie de l'Esprit n'est pas simplement quelque chose que nous possédons une bonne fois pour toutes et qui est une sorte de statut. Jean-Paul citait le texte à l'heure de Galates 5, 25, qui disait, l'apôtre Paul dit, mais si vous vivez dans l'Esprit ou par l'Esprit, marchez par l'Esprit. Comme si l'un et l'autre n'allaient pas nécessairement toujours de pair. Et moi, je cite un autre verset de l'apôtre Paul aussi, dans Éphésiens, au chapitre 5, « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Et ça revient un petit peu à cette image ici, tout simplement, d'être de plus en plus plein et rempli du Saint-Esprit. Et ça, c'est une caractéristique, en fait, de la vie de l'Esprit. C'est-à-dire qu'on peut être plus ou moins plein, on peut attrister ou réjouir le Saint-Esprit. Il y a une espèce de conception de mesure dans la vie de l'Esprit qui existe dans le Nouveau Testament. Et nous sommes appelés, encore une fois, dans ce texte de Galates, mais ici aussi Éphésiens, mais dans d'autres textes aussi, à progresser dans cette vie de l'Esprit, à être toujours plus remplis, parce que c'est l'Esprit qui nous donne cette vie, et donc d'être toujours plus remplis par l'action de l'Esprit en nous. Ainsi donc, on verra que certains vivront une progression dans leur vie chrétienne, par marche, par étape. Et ici, je ne fais que citer trois expressions, un petit peu de ce qu'on trouve dans le Nouveau Testament comme des traits de la vie de l'Esprit, mais ne regardez pas nécessairement leur hiérarchie, parce que je ne les mets pas dans une hiérarchie quelconque. Mais lorsque la vie de l'Esprit progresse, c'est la communion avec le Seigneur qui s'intensifie, nous est-il dit. Lorsque la vie dans l'Esprit progresse, cela peut être parfois par des manifestations extraordinaires que nous pouvons connaître. Et l'apôtre Paul lui-même dira à un moment, j'ai été ravi jusqu'au 3e, 4e, 5e, 7e ciel. Une espèce de manifestation extraordinaire dans sa vie avec le Seigneur, mais qui fait partie de cette progression dans la vie de l'Esprit. Ou alors cette expression plus générique, mais à laquelle nous sommes tous appelés, et qui est répétée non seulement par l'apôtre Paul, mais aussi dans l'Épître aux Hébreux, c'est d'être des adultes dans la foi et dans la vie spirituelle. Ainsi donc, me semble-t-il, pour revenir à la question de un temps ou deux temps, la question du un temps ou deux temps, ce n'est pas une question de dire les uns ont raison, les autres ont tort, où les expériences que ont pu vivre certaines personnes ne sont pas vraies, ou relèvent des esprits dans leur vie. Mais c'est plutôt de dire que certains, oui, vivent dans leur vie spirituelle, dans leur progression, dans leur remplissage de la vie de l'esprit, certaines manifestations extraordinaires qui peuvent dynamiser leur vie spirituelle, dynamiser leur ministère. Mais où il y aurait probablement erreur serait de dire, par exemple, qu'il y a les chrétiens ici et en dessous qui auraient l'esprit, puis ensuite il y a ceux au-dessus qui auraient été baptisés dans l'esprit. Les Écritures ne nous permettent pas de faire une distinction de catégories de chrétiens dans lesquels certains auraient l'esprit et les autres seraient baptisés du Saint-Esprit. Mais ce qui peut se passer, et c'est là où il nous faut être absolument ouverts à la façon et cette liberté que le Saint-Esprit a d'agir dans l'Église, c'est de dire que ce soit par la communion avec le Seigneur, que ce soit par une progression de notre maturité spirituelle, par cette transformation de notre être, ou que ce soit par des manifestations extraordinaires que le Seigneur nous donnera de vivre. C'est tout ce principe de vouloir rechercher et d'aspirer à grandir et à être rempli du Saint-Esprit. Et ça, c'est un des principes que j'aimerais que nous retenions par rapport à cet enseignement qu'on fait sur le Saint-Esprit, c'est que nous ne devons pas rester simplement à vivre par l'Esprit, mais à marcher par l'Esprit. Nous ne devrions pas nous contenter d'être un tout petit peu plein du Saint-Esprit en se disant « j'ai au moins le Saint-Esprit », mais de continuer à progresser et à connaître cette vie du Saint-Esprit. Et encore une fois, qu'elle se manifeste de façon extraordinaire ou de façon plus naturelle ou ordinaire, cela ne fait rien. Parce que ce qui compte, c'est encore une fois la progression dans la communion avec le Seigneur, avec les frères et sœurs, et aussi notre progression dans la foi en notre Dieu. La question des dons spirituels. La question, alors je laisserai ces diagrammes et tout ça sur le site, donc vous pourrez toujours les prendre, il y a aussi quelques notes en dessous où vous verrez les textes que j'ai cités et certains points. La question des dons spirituels, je vais sauter à pieds joints en fait dans, Dans le Nouveau Testament, vous trouvez 6 listes de dons spirituels. Les voici. Maintenant, si vous regardez rapidement, il n'est pas très facile de se dire... Il y a quelque chose en commun. Si. Alors, non, pardon. Déjà, Paul, lui, à un moment, mariage et célibat. Ce sont des dons spirituels dans 1 Corinthiens 7. Donc, vous avez tous un don, vous tous qui êtes mariés. Vous tous qui êtes célibataires, nous avons tous un don spirituel. Pierre, lui, on dirait qu'il prend quelques raccourcis. Il dit ceux qui parlent au nom du Seigneur, puis ceux qui servent. Voilà les dons spirituels qui existent. Mais l'apôtre Paul, lui, alors là, Romains 12, 1 Corinthiens 12, 8, 1 Corinthiens dans le même chapitre, il y a des choses qui sont en commun, les langues, on a la prophétie qui est en commun à certains endroits et tout ça, ici aussi. Et après, on se retrouve avec des choses qui divergent. On a les langues ici, mais on n'a pas l'interprétation qu'on a là. Tiens, puis direction. On a la direction là et la direction là. On n'a pas toujours l'impression de penser que des gens qui exercent un rôle de type administratif ou de direction dans l'Église sont des gens spirituels. On dit généralement que ce sont des gens qui sont un petit peu matériels et qui dirigent les choses un petit peu comme le monde. Mais il n'empêche que Paul, il dit, ça peut être un don spirituel. La libéralité, donner, c'est un don spirituel, nous dit l'apôtre Paul en Romains 12. Donc le premier des points qu'il faut peut-être que nous réalisions, c'est que dans un sens, il n'y a pas un catalogue exhaustif et fini des dons spirituels. D'accord ? Parce qu'à ce moment-là, moi je vais ajouter ici, il n'y a rien par rapport à la louange et la musique. Hein. Donc vous tous qui faites la louange le dimanche matin, c'est peut-être pas un don spirituel que vous avez, si on applique l'idée que ce sont des listes exhaustives et finies. Et pourtant, nous serions tous les premiers à reconnaître que dans la participation au culte, on espère que les gens ont un don spirituel et que ça se traduit aussi dans la façon dont ils jouent de leurs instruments. Mais si donc il n'y a pas de liste exhaustive, quels sont nos points de repère ? Il y a deux grands principes qui nous sont donnés dans l'Écriture, par rapport aux dons spirituels, la première des choses, c'est que c'est l'Esprit qui les donne. Tout cela est l'œuvre d'un seul et même Esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière, comme il le veut. Et ça, de façon répétée dans le Nouveau Testament, on trouvera que c'est le Saint-Esprit, et ça revient à ce que Jean-Paul disait tout à l'heure, qui équipe l'Église et qui donnera les capacités aux uns et aux autres pour exercer ce don en fonction de ce que lui décide de faire dans l'Église. Et le deuxième principe, c'est que les dons spirituels ont un critère, quoi. Il y en a un deuxième, mais il y a un critère en particulier qui est l'édification de l'Église. 1 Corinthiens 12, ils sont donnés pour le bien commun. Et ensuite ici, il nous est même dit de posséder en abondance les dons qui font grandir l'Église dans la foi. Ainsi donc, peut-être notre point de départ ne devrait pas être à savoir qu'est-ce qui est spirituel ne l'est pas. Et est-ce que moi je suis dans ce catalogue-là? Ou alors, c'est plutôt de se dire, et c'est là de nouveau cette invitation de Jean-Paul, à être ouvert au Saint-Esprit dans notre Église pour savoir ce que le Saint-Esprit veut nous donner comme don, mais parce qu'il le fait aussi et en particulier pour l'édification de l'Église. Alors il y a un deuxième critère que j'ajouterais, mais enfin qui est moins évident dans les Écritures, mais qui était aussi celui qui nous donne un avant-goût de ce que sera le ciel. Un avant-goût de ce que sera le ciel. Et c'est là peut-être où, en se disant, la louange pourrait être, dans un sens peut-être, cet avant-goût du moment où nous nous retrouverons en présence du Seigneur, dans les festins de l'agneau et dans ce culte que nous lui rendrons et cette louange que nous lui rendrons éternellement. Mais il y a un troisième élément aussi que j'aimerais vous dire, c'est que vous rendrez compte dans le texte de 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul arrive même à dire que dans un sens, les dons sont imparfaits. Les dons spirituels sont imparfaits, dans le sens où ils sont partiels. Et il parlera des prophéties qui cesseront, il parlera des enseignements qui sont imparfaits, mais tout ça parce que c'est généralement un reflet de ce qu'il viendra plus tard, ou aussi tout simplement parce que il y aura un moment où ça s'arrêtera pour passer à autre chose. Donc encore une fois, ici, la question des dons de l'Esprit, notre point de départ, ce n'est pas tellement est-ce que j'ai une capacité qui me rend apte à exercer un don spirituel, mais plutôt est-ce que je suis à l'écoute du Saint-Esprit et est-ce que ma motivation est celle de faire croître l'Église dans la foi. Et c'est là le point de départ de la réflexion sur les dons spirituels. Mais il y a une chose qui nous est dite aussi dans le Nouveau Testament, et le premier verset nous le dit, 1 Corinthiens 12. Il parle des apôtres et toutes sortes de choses, mais on pourrait dire de tous les dons spirituels. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils enseignants? Et il continue, et il termine, évidemment non. Dans le corps, tout le monde ne peut pas être une main. Sinon, on serait tous à se balader simplement une main. Évidemment non, dit l'apôtre Paul. Et pourtant, si un des dons spirituels est l'évangélisation, comment se fait-il que tous nous témoignons et nous faisons quelque part œuvre d'évangélisation? Comment se fait-il que tous nous enseignons nos enfants et nous faisons donc œuvre d'enseignement? Comment se fait-il que nous prions tous pour la guérison, mais nous n'avons pas tous le don de guérison? Est-ce que ces textes se contredisent? Est-ce que ces principes se contredisent? Pas nécessairement. Et c'est là où il y a une question, où tout simplement, on ne peut pas affirmer 100% que si vous avez un talent naturel, vous avez nécessairement un don spirituel dès lors que vous êtes chrétien. Ni même est-ce qu'on peut dire que dès lors qu'on a un don spirituel, on a nécessairement un talent naturel. Parce que le Saint-Esprit garde sa liberté. Le Saint-Esprit peut donner à qui il veut, mais il n'empêche que d'expérience, il se peut et il arrive que quelqu'un qui a un don naturel puisse l'utiliser et l'utilise comme un don spirituel. Et donc ici, il me semble qu'il y a trois choses qu'il faut absolument que nous intégrions lorsque nous réfléchissions à nos dons spirituels et dons spirituels dans l'Église. C'est que d'abord, avant tout, où est l'appel et l'écoute du Saint-Esprit ? Et lorsqu'on dit que nous avons le désir d'exercer un don spirituel, où est l'appel du Saint-Esprit là-dedans? La deuxième chose, c'est est-ce que notre attitude et notre application est véritablement celle du service dans l'Église, des frères et des sœurs, et non pas quelque chose qui, dans un sens, nous promeut personnellement à avoir un certain statut aux yeux des autres. Je voudrais avoir ma petite part dans la construction du temple. Je voudrais être cette pierre-là, moi. Mais on oublie peut-être que la pierre, elle est là pour soutenir les autres. Et donc, il faut avoir, dans un sens, cette attitude de service. Mais il y a une question aussi d'édification de l'Église. Et ici, moi, je l'interprète non pas simplement comme étant « je suis au service des autres », mais est-ce que mon service fait une différence dans la vie de l'Église pour la faire progresser dans la foi ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une efficacité de l'œuvre que je suis en train de faire dans l'Église ? Et on pourrait très bien, dans un sens, avoir un certain nombre de personnes qui exercent des talents, le font avec l'esprit de service, mais est-ce que l'Église est édifiée par ces personnes ? C'est encore à voir. Alors, ce n'est pas un critère nécessairement pour arrêter des personnes et tout ça, mais il n'empêche que lorsque nous exerçons nos dons, nous sommes tous appelés à mesurer quel est l'impact que nous produisons par l'exercice de ce don pour l'édification de l'Église dans la foi. Et moi, je pourrais très bien parler ici, ayant un talent naturel peut-être pour parler et faire des PowerPoint et des machins comme ça et tout, mais si ça n'a pas d'impact pour l'édification dans la foi des gens qui m'écoutent, je reste du côté des talents naturels. Je ne suis pas nécessairement dans un don spirituel. Et si en plus de ça, je ne peux pas être certain que c'est l'Esprit qui m'appelle à le faire, je suis dans une position difficile. Ainsi donc, il faut continuellement combiner ces trois éléments parce qu'il y a un élément pragmatique dedans que le Saint-Esprit nous demande de faire, c'est d'avoir un impact sur les gens. Ça nous amène donc à la question comment discerner ces dons spirituels. C'est vrai, ici je cite un certain nombre de choses que nous avons dans le Nouveau Testament qui nous sont affirmées. Chacun, l'Esprit donne un don à chacun. L'Esprit, l'effusion de l'Esprit est sur tous. Et les textes que nous avons cités tout à l'heure de l'Épître aux Corinthiens disent que le Seigneur, l'Esprit en toute libéralité, donne à chacun, comme il l'entend. La deuxième chose, c'est que les images du corps de Christ ou les images du temple font que chacun a sa place dans cet édifice que nous représentons. Nous sommes tous une pierre de ce temple spirituel que nous sommes invités à construire et qui est construite autour de cette pierre d'angle qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et de même, nous faisons tous partie de ce corps, que nous soyons une toute petite oreille ou que nous soyons un grand pied ou que nous soyons une longue jambe. Nous sommes tous partie de ce corps. Donc il n'y a pas des gens qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur. Tout le monde est à l'intérieur et tout le monde a son rôle à jouer. La troisième chose, c'est que nous sommes exhortés à rechercher ce qui contribue le mieux à l'Église. C'est ça qui est un des critères aussi. L'idée n'est pas de trouver quelle est la meilleure place. Moi, je voudrais être tout en haut de toutes les autres pierres, parce qu'on est bien là-haut. Et en plus, moi, je suis beau et je suis joli. Puis je veux une belle vue. L'idée, c'est de savoir, est-ce qu'il ne faudrait pas être le talon sur lequel tout le reste du corps marche, on se retrouve avec des corps aux pieds et toutes sortes de choses douloureuses, ou être tout simplement une de ces pierres enfouies dans les fondations qu'on ne voit pas et qui pourtant est vitale. Et la troisième chose, c'est que chacun est dans un sens aussi appelé à servir son propre prochain et que nous sommes là pour les autres. Ainsi donc, pour rechercher, une fois qu'on a tout ça, et j'espère que dans un sens ça vous rassure par rapport au fait que vous ayez un don ou n'ayez pas de don, parce que ça c'est souvent la question qui préoccupe trop de chrétiens, mais c'est que pour rechercher dans un sens les dons, il y a nécessairement tout ce moment de prière et d'écoute, parce que c'est le Saint-Esprit qui attribue ces dons, donc de lui poser les questions, de le rechercher, mais en même temps de l'entendre. Il y a un fait d'être sensible à ce que l'Église a besoin. Et puis ensuite, il y a nécessairement la volonté de mettre en œuvre un service pour les autres et non pas nécessairement d'obtenir un statut ou une place dans l'Église. Et ici, j'aimerais vraiment que nous prenions conscience de ce que nous sommes en train d'essayer de faire avec ces commissions dont on a parlé. Ce n'est pas simplement une question administrative ou de structure ou de fonctionnement dans l'Église. Ce n'est pas un modèle de fonctionnement par rapport à d'autres. Ce n'est pas simplement le conseil qui essaye de se décharger d'un certain nombre de tâches. C'est aussi et avant tout le désir de pouvoir permettre à chacun de trouver une place, non pas simplement pour exercer une activité, mais dans un sens pour exercer les ministères auxquels l'Église est appelée à exercer au milieu d'elle, mais par les dons des uns et des autres. Donc lorsque nous reviendrons à ce sujet des commissions à l'automne, pensez non pas simplement administration et organisation, mais pensez dons de l'Esprit, dons spirituels et ministères du Saint-Esprit au milieu de nous. Bien, je vais conclure là maintenant, mais il y a peut-être quatre points que j'aimerais revenir un tout petit peu sur les quatre interventions des anciens, mais quatre points importants qui me semblent par rapport au Saint-Esprit. C'est certainement la personne de la Trinité qui est la plus discrète et dont on parle le moins ou du moins dont on a peur de parler. Et pourtant, lorsqu'on a retravaillé à cet ensemble de sujets et tout ça, je me suis dit, mais c'est incroyable, incroyable à quel point le Saint-Esprit est pivot dans la foi des chrétiens. Il est pivot dans la révélation parce qu'elle nous parvient par la parole de Dieu et le Saint-Esprit ensemble et ni l'un sans l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est impossible de lire la parole de Dieu sans l'œuvre du Saint-Esprit. Mais de même, le Saint-Esprit n'agit pas sans la parole de Dieu parce que c'est lui qui l'a inspirée. Donc aujourd'hui, lorsque nous continuons à ouvrir les Écritures, les méditer et tout ça, nous sommes sujets à l'action du Saint-Esprit et nous devrions rechercher cette action du Saint-Esprit afin qu'il nous ouvre les yeux et nous conduise dans tout ce qui a été révélé dans la parole de Dieu. Le deuxième point, c'est que, à la suite de Jésus-Christ, qui dans un sens a réalisé une œuvre objective, c'est-à-dire qu'il a accompli la justice de Dieu, il nous a précédés en tant que frères dans la foi, mais il n'empêche que c'est le Saint-Esprit qui rentre en nous au moment de notre conversion et qui fait que nous devenons des chrétiens. Et c'est lui qui continue de faire de cette réalité qui nous a été acquise en Jésus-Christ quelque chose qui nous est personnel. Jean-Paul nous a dit ici, il n'y a pas d'église sans Saint-Esprit. Il n'y a pas d'église sans Saint-Esprit. Et la dernière, c'est que dans la sanctification, comme dans l'exercice des dons, nous sommes appelés à être toujours plus remplis du Saint-Esprit. Nous ne devrions pas simplement, parce que les charismatiques et les pentecôtistes nous font peur, dire que nous ne rechercherons pas nécessairement à être plus remplis du Saint-Esprit. C'est un enseignement biblique, c'est ce que le Seigneur veut que nous vivions tous les jours. Ça a été rapide. Tout ceci sera sur le site internet. Vous pouvez toujours y revenir. N'hésitez pas à revenir voir un des anciens si vous le souhaitez pour poser certaines des questions. Mais il y a beaucoup de matière dans ces quatre interventions et nous vous les laisserons sur le site et on pourra en tout cas continuer à en discuter dans les mois qui viennent. Et je crois que ça va beaucoup imprégner aussi notre réflexion et mise en œuvre des commissions. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole, parce qu'elle est riche. Mais surtout, nous voulons te remercier, Seigneur, pour tout ce que toi, tu as fait personnellement pour nous. Et merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci pour cette œuvre, parfois discrète, mais tellement essentielle et tellement puissante qu'il fait. Seigneur, merci parce que c'est lui, c'est vrai, qui nous unit en toi. Et Seigneur, nous voulons te dire un grand merci pour ce don et pour ce cadeau. Aide-nous, Seigneur, à être remplis du Saint-Esprit, à le désirer, à l'aspirer, Seigneur, et à vouloir aussi mettre en œuvre nos dons sous sa conduite, Seigneur, pour nous édifier les uns les autres dans la foi. Au nom de Jésus, amen. Je sais que le temps passe, mais nous voulons quand même prendre quelques instants pour prendre ensemble le repas du Seigneur, qui lui est cette manifestation de cette unité et de cette communion que le Saint-Esprit exerce en nous. Et j'aimerais inviter Jean-Paul, Philippe et peut-être Ouli aussi à s'avancer. Et ils distribueront le pain et le vin pour nous. Et tout comme ce pain et ce vin nourrissent notre corps, c'est aussi la vie que le Seigneur nous a acquise, mais qu'il nous donne aussi par son Esprit, qui nous fait vivre chaque jour. Et c'est là l'essentiel de notre vie. Et comme le Saint-Esprit est en nous une attestation de ce que nous attendons et de notre espérance, par ce signe aussi, nous manifestons, jusqu'à ce qu'il revienne, que c'est là-dessus que nous prenons notre appui et que c'est dans ce sens que nous tournons les yeux. Que son Saint-Esprit vous remplisse de sa paix, vous remplisse de sa joie, vous remplisse de son espérance et que vous soyez tous libres de participer à ce repas du Seigneur. J'inviterai Jean-Paul à prier en notre nom pour le pain et ensuite peut-être à Oli de prier pour le vin.
Notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce sacrifice parce que tu as donné ta vie sur la croix pour nous. Par ce pain, dans ce pain, nous reconnaissons ton corps brisé, meurtri, percé, mais nous témoignons aussi que par cela, tu nous donnes l'espérance, tu nous donnes un avenir à espérer. Merci pour ce sacrifice, Père. Nous voulons aussi témoigner que tu reviens bientôt. Amen.
Merci, Seigneur Jésus, que tu es venu sur cette terre. Tu es le Dieu éternel, tu es le Dieu tout-puissant, mais tu es devenu un homme et tu es mouru à notre place. Merci que tu as tout donné. Mais aussi, je voulais te dire merci pour cette signe de divin qu'on prend, que tu nous donnes à nous rappeler. Amen.
Dans la nuit où Jésus fut livré, il prit du pain et le rompit. Il le distribua à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » Ensuite, le Seigneur prit une coupe et la distribua parmi ses disciples et leur dit, « Ceci est mon sang, le sang d'une nouvelle alliance qui est versé pour vous. » Prenez, buvez-en tous.
J'aimerais partager avec vous les quelques annonces. Cette période de vacances où beaucoup sont en congé. Dimanche prochain, notre culte, ici, à 10h30. Je vous rappelle, je vous annonce pour ceux qui ne le savent pas, et je vous rappelle que le dimanche 30, c'est-à-dire le dernier dimanche du mois, notre culte sera à la Lécherolle. Il fera beau, on ira à la Lécherolle, ça sera super. On se réjouit aussi de partager ce temps ensemble. On avait, dimanche passé, je vous avais demandé de vous annoncer pour déménager Jonathan. Alors, je voulais faire deux informations. D'abord, il n'y a personne qui s'est annoncé. Et puis, la deuxième chose, c'est que c'était très bien parce que Jonathan n'a pas déménagé. Jonathan a eu un problème. En fait, l'appartement dans lequel il pensait déménager a été donné au dernier moment à quelqu'un d'autre. Alors, je pense qu'on peut prier vraiment pour Jonathan et Rachel qu'ils puissent vraiment trouver un appartement rapidement. Donc, ils n'ont pas pu déménager, donc on remettra ça. Donc, on fera une annonce pour déménager Jonathan. J'espère qu'à ce moment-là, il y aura vraiment du monde qui viendra lui donner un coup de main. Et puis, continuez à prier aussi pendant ce temps d'été pour le club du mois d'août. On va bientôt enlever le petit panneau qui est au fond. Là, si vous voulez encore vous inscrire, vous pouvez encore le faire. Priez pour les enfants, priez pour l'organisation de ce club complètement. Voilà. Je n'ai pas d'autres annonces. Je vous invite à vous lever et je vous relirai deux versets qu'on a lus ce matin dans la lettre de Paul aux Galates où il nous est dit « Le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. » Et c'est vraiment ce qu'on nous invite à vivre tous les jours. Et puis, ce passage que John nous a redonné aussi tout à l'heure, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » Que Dieu nous guide et nous donne son Esprit dans cette semaine, dans les mois, dans les jours qui viennent, dans les années qui viennent. Amen.